Vous saviez que choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Vous écoutez une émission de choc.ca.
Bonjour, je suis Frédéric Charbonneau, professeur de littérature française du 18e siècle à l'Université McGill.
Bonjour Frédéric, je suis Pascal Bastien, professeur d'histoire moderne à l'Université du Québec à Montréal et chercheur aussi sur la France du 18e siècle.
Bonjour Pascal. Et voilà, nous nous retrouvons en plein 18e siècle. Et je pense que cette question des liens, évidemment, nous l'abordons régulièrement dans notre travail, le lien entre les objets, le lien entre les chercheurs, le lien entre les disciplines. Et il me semble que peut-être, comme on est tous les deux des spécialistes du 18e siècle, on pourrait peut-être commencer en se demandant ce que ça signifiait un lien, ce que signifiait avoir des liens à l'époque sur laquelle nous travaillons. Et je sais que de mon côté, surtout du fait que j'ai travaillé beaucoup sur les mémorialistes, la première idée qui me vient à l'esprit, si je pense à ce que c'est qu'un lien pour eux, et je vais en prendre un, celui que je connais le mieux, le duc de Saint-Simon. Pour Saint-Simon, auteur de mémoire, un lien, c'est d'abord un lien entre des souvenirs. C'est d'abord un lien, je dirais, à la fois cognitif et affectif entre des souvenirs. Et c'est ce qui lui permet, évidemment, d'écrire son œuvre. Mais pour reprendre le thème général de ses entretiens, c'est aussi quelque chose qui le libère, en effet. Parce que le lien entre les souvenirs, c'est ce qui lui permet d'échapper à, je dirais, d'une part, l'isolement de son vieil âge. C'est ce qui lui permet de reprendre contact avec la vie enfuie, la vie en allée, avec l'époque où tout était possible, où l'action pouvait encore porter fruit. Et d'autre part, il me semble que ça lui permet, en plus d'échapper à cette claustration du vieil âge, de manière plus générale, d'échapper à une sorte d'étroitesse du présent. C'est un peu comme si le lien entre les souvenirs, le lien du flux temporel, permettait un décloisonnement. Et en ce sens-là, je crois que ce lien-là, c'est vraiment un lien qui libère. Mais en même temps, toujours pour Saint-Simon, qui est un aristocrate, qui vit dans un univers encore en bonne partie féodal, les liens, c'est aussi toutes sortes d'autres choses. Ce sont les liens hiérarchiques, les liens de caste, les liens familiaux, les liens religieux, et c'est le sens même du mot religion. Et ces liens-là, eux, je doute qu'ils soient vécus comme une libération. Il me semble que, en contrepartie des liens intérieurs, si on veut, qui sont chez lui le facteur de l'ouverture, les liens extérieurs sont une sorte de tissu dans lequel il prend place sans pouvoir véritablement choisir cette place. Et que ce qui est libération à l'époque, à cet égard, par rapport aux liens politiques, moraux, religieux, c'est plutôt ce qu'on a appelé le libertinage, c'est très loin de Saint-Simon. Le libertinage qui, lui, véritablement cherche à libérer. Et il y a des liens entre les libertins, bien entendu. Il y a des confréries libertines qui sont parfois très proches d'une forme de conjuration pour jeter à terre toutes les structures contraignantes. Mais toi qui travailles sur d'autres objets que les miens, pour la même période, j'imagine que tu as la façon dont les liens se manifestent pour les personnages, les groupes sur lesquels tu travailles autour de la Révolution, par exemple. les liens sont tout à fait différents.
Ils sont tout à fait différents et en même temps, c'est peut-être une évidence, mais elles font partie de toute façon des identités des uns et des autres. C'est-à-dire qu'on partage le même espace, grosso modo la France, et plus particulièrement que ce soit Versailles ou Paris. On partage aussi l'époque, les Lumières, puis la période révolutionnaire à ce qui me concerne. Les acteurs avec lesquels je travaille, ce sont des humbles, ce sont des ouvriers, ce sont des artisans, ce sont des compagnons, mais qui, eux aussi, se définissent par leurs liens. Le terme de lien n'est pas utilisé dans les textes sur lesquels je travaille, mais le terme de fidélité, le terme de communauté et les notions d'identité sont tout à fait... révèlent l'existence. Il n'y a pas d'existence sans les liens qui fait de quelqu'un un membre de la cité. La cité au sens évidemment politique et social. C'est de telle sorte que lorsque jadis je travaillais sur le droit pénal, ce que je continue un peu à faire, le sort redoutable et redouté de la justice, c'est justement la rupture des liens, qui est d'ailleurs pensée comme cela. C'est-à-dire qu'à travers, bien entendu, le paroxysme de l'exécution capitale, mais au-delà de ça, depuis le fouet jusqu'au bannissement, il s'agit de rompre des liens. Il n'y a rien de plus cruel que de bannir quelqu'un, puisqu'on tranche les liens qui fait de l'individu un être humain et un être social. Et donc, c'est amusant que nous sommes ici pour discuter des liens et que, à travers nos propres objets, on ne peut pas réellement penser les intentions des uns et des autres, les relations et les rapports sociaux des différents acteurs qui nous intéressent, sans cette question de lien, de fidélité et de confiance. Tu évoquais tout à l'heure la notion de religion qui est elle-même une notion donc de liaison. Effectivement, tout ce qui fait exister un individu, ce sont ces communautés confessionnelles, communautés professionnelles, communautés familiales, communautés spatiales. Dans un voisinage, on existe aussi en raison des liens que l'on peut avoir avec celles et ceux que l'on fréquente. Donc on ne peut pas faire abstraction de cette question. Et en fait, c'est absolument indispensable pour un individu ou pour les communautés de penser les sociétés qui nous intéressent à travers les liens qui les constituent ou la rupture de ces liens qui vient rejouer et reconfigurer l'histoire.
Le rappel de l'histoire pénale, en fait, me fait penser à quelque chose qui s'applique à ces mémorialistes sur lesquels j'ai travaillé, puisqu'il y en a plusieurs qui sont exilés sur leur terre, relégués à un moment ou à un autre de leur carrière. Et effectivement, à ce moment-là, le lien, je disais tout à l'heure, féodal, familial, etc., qui peut être vécu comme une contrainte, apparaît sous son jour libérateur. C'est-à-dire que la liberté, c'est de pouvoir reprendre place dans l'ensemble des liens qui nous définissent, alors que d'être envoyé sur sa terre de Bourgogne ou de Limousin, là, la rupture des liens est véritablement et littéralement un emprisonnement. L'absence totale de liberté. Et par ailleurs, je pensais à un auteur sur lequel on a travaillé, ou on travaille tous les deux, qui est Ménétra, donc qui est un de tes représentants du petit peuple révolutionnaire de Paris, comme vitrier, comme compagnon vitrier. Il fait partie d'une communauté avec des liens très forts, et certains de ces liens certainement sont contraignants, mais en même temps, ils lui permettent quelque chose qui lui aurait été très difficile autrement, c'est la liberté de mouvement. Puisqu'il peut faire son tour de France, il part à l'aventure avec ça. Et là aussi, on dirait que c'est en fait une dialectique. Le lien n'est pas nécessairement et exclusivement l'outil d'une libération. Il peut être tour à tour l'outil d'une libération et en même temps... un enserrement.
On pourrait dire mille choses de Ménétra. C'est-à-dire que, d'une part, par rapport à son tour de France et à la liberté dans son journal, donc dans ses écrits autobiographiques, il révèle ce départ comme une véritable liberté parce qu'il rompt Et ça aussi, il en est très fier. Il rompt avec la maison paternelle. Son père, qui n'a cessé de le battre et de l'injurier, pour lui partir dans le Tour de France, c'est de s'en libérer. Mais il n'y a pas de Tour de France dans le monde des corporations et du compagnonnage. Il n'y a pas de Tour de France s'il n'y a pas des structures d'accueil. Et donc, au nom de la profession, il y aura toujours des communautés de vitriers qui sont des liens et qui font en sorte que le Tour de France, quand on regarde une carte, on ne peut pas regarder cette carte du Tour de France strictement avec des points, mais bel et bien avec des points liés les uns avec les autres, puisque le voyage est pensé pour nouer, presque comme un texte, nouer des relations sociales, nouer des relations professionnelles, pour Ménétra, nouer aussi quelques relations amoureuses, successives et abondantes, mais qui fait que... on rompt un lien pour s'en construire immédiatement un autre. C'est de cette manière, du moins, que Ménétra s'affiche comme étant quelqu'un qui est toujours, c'est son maître mot, c'est quelqu'un qui s'affiche comme de fondamentalement social, qui n'existe... il revendique son individualité, mais cette individualité n'existe pas sans toutes les relations qu'il accumule. Et qui est fondée sur l'amitié, sur la franchise, parfois aussi sur le conflit, mais il n'y a dans tout son récit d'existence qu'à travers le lien. Donc, on répète en la question du lien comme pour convaincre les auditeurs et les auditrices que c'est fondamental, mais ce qui m'apparaît très important, je crois, en tant qu'historien, c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux étudiantes et aux étudiants qui travaillent avec moi. L'historien ne s'intéresse pas au passé. L'historien s'intéresse au temps et donc au changement. Et lorsqu'on s'intéresse au passé, ces liens ne sont pas aussi visibles que lorsqu'on s'intéresse au temps, aux ruptures, aux constructions, aux reconfigurations des différents liens. Le temps bouge justement parce que la liaison entre les individus et le monde qui les entoure est bousculée, et c'est ce qui fait le changement, c'est ce qui fait l'histoire. La discipline, la nôtre, je crois, est une discipline qui s'intéresse à ce qui bouge, à ce qui change, et ces changements ne sont possibles, justement, qu'à travers ces rapports, qu'à travers ces liaisons, qu'à travers ces désaccords, mais toujours à travers cette façon de ne jamais se penser seul, même dans l'unité, surtout dans l'unité, il y a de la liaison.
Et c'est bien que tu ramènes ça à nos disciplines, parce qu'en définitive, c'est ça aussi, notre expérience du lien dans notre métier. Ce sont les liens à l'intérieur de nos objets, si on veut, mais c'est aussi, bien sûr, les liens entre nos pratiques. Et là-dessus, on a déjà une certaine expérience de ce que c'est à l'intérieur de ces groupes de recherche, ces centres de recherche qui sont pour l'Ancien Régime tous pluridisciplinaires. Et donc nous, on se rejoint déjà dans deux d'entre eux, où il y a des philosophes, des historiens de l'art, des historiens de la littérature, des historiens du social, etc. Et pourtant, ça représente quand même, ça représente à la fois un ensemble de possibilités. Donc en ce sens, ça c'est certain, il y a là une ouverture, ce qui est une forme de liberté d'aller de l'un à l'autre, de lancer des projets. Et on ne sait pas, toi et moi, on ne s'est pas privé de le faire. Je pense à nouveau à Ménétra, puisque dans la préparation de l'édition de ces textes, on se retrouve entre historiens et littéraires à essayer de penser la conjonction, la complémentarité, un dialogue entre les disciplines. Sans ce dialogue, en fait, il y aurait seulement juxtaposition. Et il me semble que, malheureusement, souvent, les structures qui nous permettent de travailler dans le lien entre les disciplines sont, euh, sont en définitive des lieux où les disciplines sont juxtaposées plutôt qu'en véritable interaction. Et je me demande comment on peut comprendre ça. C'est-à-dire qu'au fond, on répète depuis des années maintenant l'appel à l'interdisciplinarité comme une sorte de mantra institutionnel, mais j'ai l'impression qu'il reste encore certainement des habitudes très fortes de clôture méthodologique, mais aussi d'entre-soi disciplinaire, départemental. C'est pas simplement un manque de coordination, c'est peut-être une espèce de confort à continuer de travailler dans son espèce de soliloque disciplinaire. Mais les résistances m'apparaissent quand même assez remarquables. Je pense par exemple à ce premier colloque du centre de recherche interdisciplinaire sur la première modernité il y a quelques années, où on avait proposé que les communications se fassent à deux et deux personnes de disciplines différentes. Et finalement, il y a eu très peu de réponses à cette... Pourtant, c'était là où on avait tout pour que ça séduise.
En fait, bon, on ne peut parler qu'à travers notre propre expérience, mais... Il y a effectivement un écart entre, à la fois entre le vœu, je crois, collectif, certainement institutionnel, mais je pense qu'il est aussi souhaité par beaucoup de collègues, de l'interdisciplinarité. Il y a la réalité qui est pluridisciplinaire, c'est-à-dire que depuis, ma foi, depuis la maîtrise, je lis des anthropologues, je lis des ethnologues, je lis des littéraires, je lis des philosophes. Je ne me pense pas comme un pluridisciplinaire, c'est-à-dire que je suis un historien gourmand, mais très, très attaché à ma discipline, très attaché à la méthodologie, à la formation que j'ai reçue, et qui fait que je ne suis pas porté... naturellement à l'interdisciplinarité. C'est-à-dire que l'expérience de cette interdisciplinarité se fait, on en a déjà parlé, sur l'amitié. C'est-à-dire que, ou bien elle peut peut-être être provoquée, c'est arrivé une fois, c'est d'ailleurs, je crois, au moment où on s'est rencontrés, lorsqu'il y avait eu un colloque sur Philippe Aubert de Gaspé, où plusieurs historiens et littéraires travaillaient sur un même objet. Et donc là, il y avait un lieu propice, puisque chacun réfléchissait à un même texte. Là, il pouvait y avoir, ça restait un dialogue disciplinaire, mais une oreille était attentive aux enseignements des uns et des autres. Sinon, ce qui nous a conduit, toi et moi, à travailler ensemble, tantôt avec Hardy, tantôt avec Ménétra, tantôt à travers toute une série d'enjeux historiques et d'histoire des idées, mais c'est d'abord et avant tout parce qu'on s'apprécie. C'est d'abord et avant tout parce qu'il y a déjà des liens qui sont personnels avant de devenir des liens disciplinaires. Et là, l'interdisciplinarité n'est pas forcée. Elle est lente. Elle reste encadrée par, évidemment, nos réflexes disciplinaires. Mais notre oreille étant telle qu'il peut y avoir un vrai dialogue. Et on peut, je pense, je l'espère, sentir dans nos travaux, qu'il y a quelque chose, on aime bien le mot, mais là je crois qu'il est juste, il y a une véritable co-construction du savoir. Mais c'est très rare et je ne peux pas, jeter la pierre parce que je crois que par rapport à nous, et on a évidemment d'autres collègues historiens et littéraires, je ne travaille pas autant avec les uns et les autres, je travaille avec toi parce qu'il y a quelque chose qui d'un point de vue personnel, d'un point de vue de nos objets, de nos sensibilités, qui se traduit dans un vrai dialogue. Donc, cette interdisciplinarité, ces liens, justement, à travers ces disciplines, eh bien, il faut peut-être d'abord essayer de les sentir à travers des amitiés, des sensibilités personnelles, des sympathies. Oui. Et puis ensuite, ça se traduit à travers des discussions, à travers des vers échangés et puis des projets qui commencent par être farfelus et qui deviennent de plus en plus concrets.
Sérieux. En ce sens-là, Bon, évidemment, on est tributaire de notre époque. Et cet effort individuel qui consiste à aller vers l'autre, à établir un lien à travers le dialogue, à travers et fondé sur la sympathie, ça vient, tu le disais à l'instant, ça vient du fait que nos méthodologies sont différentes, nos formations sont différentes. Et ça, bien entendu, depuis le 18e siècle dont on est spécialiste, ça s'est creusé considérablement. Je me souviens d'une époque pas si lointaine où l'histoire littéraire elle-même était assez mal perçue, comme si la conjonction entre l'histoire et la littérature chez les littéraires était vue comme la rémanence de quelque chose de vieillot et qui était à la fois dépourvu de lustre et de pouvoir conceptuel véritable. Alors, ça a changé depuis, mais on sent que il y a eu un très grand isolement de nos disciplines qui s'est creusé entre le début du 19e siècle et la fin du 20e siècle.
Et qui est encore réel aujourd'hui, même si c'est peut-être un peu plus poreux,
un tout petit peu.
Mais oui. Il reste que ces résistances, si on revient encore à la formation que l'on reçoit, celle que j'ai reçue et, il faut bien l'admettre aussi, celle qu'il m'arrive de donner dans les cours d'historiographie, c'est celle justement de cette séparation, de cette véritable, pour la discipline historique, véritable crise identitaire, la fin du 19e siècle et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Le tournant linguistique en a été une preuve radicale et éclatante. Mais cette idée des historiens et des historiennes de devoir démontrer que la discipline historique est distincte, spécifique, singulière, et qu'elle n'est pas... On est tombé, d'ailleurs, il y a quelques départements qui se nomment sciences historiques. Hein, oui. Donc à l'Université Laval, il y a un département de sciences historiques qui insiste sur cet horizon et qui permet, qui justifie, qui motive en quelque sorte une espèce de distance entre philosophie, littérature, puisque l'histoire, c'est autre chose. L'histoire, c'est quelque chose de plus, j'allais dire artisanal, mais de plus mécanique, de plus concret. Voilà, il y a encore quelque chose qui s'est construit fin 19e, début 20e siècle et qui reste encore dans nos différentes formations assez forte, même si généralement, à la fin d'une séance ou d'un cours, on essaie de tempérer, hein, de modérer, mais essentiellement...
C'est une concession.
C'est une concession, voilà.
Quand j'ai soutenu ma thèse de doctorat, qui portait donc sur les mémoires historiques au XVIIe siècle, le représentant du doyen était un historien. Et il a écouté poliment toute la soutenance, sans rien dire. Et puis à la fin, il a pris la parole. Il a pris la parole et il m'a dit « Mais je suis un historien et vous savez, au département d'histoire, on ne travaille pas du tout comme ça. » J'ai dit « Mais monsieur, c'est que c'est une thèse de lettres. » Mais oui, bien sûr, les pratiques sont différentes. On en a souvent parlé. Le texte est une source pour... est une source la plupart du temps pour les historiens. Il est un objet, il est la fin de l'étude littéraire. Et pourtant, on se rend bien compte que c'est trop simple de dire les choses comme ça. J'utilise aussi les textes comme source. Et les historiens sont aussi, parfois, certains d'entre eux en tout cas, sensibles à ce que la texture, la tessiture, le tissu du texte emmène ailleurs que dans cette transparence de la source qui nous fournirait une information brute, si on veut. Elle est construite par le texte. Alors, ce sont des choses dont nous sommes au fond conscients, même si nos disciplines ne nous pousse pas nécessairement dans cette direction. Et au fond, quand on travaille dans l'interdisciplinarité, pour pouvoir être dans le dialogue et écouter l'autre, ça nous demande de, il me semble, que ça nous demande de rendre actifs des perceptions qui autrement sont latentes. Je perçois le texte comme une source d'information, mais mon réflexe disciplinaire, c'est de dire, oui, mais attention, là, tu fais de la littérature, donc tu dois travailler sur cette opacité de l'écriture qui construit l'œuvre. Et je fais la même chose avec mes étudiants qui sont souvent à mi-chemin de l'histoire et de la littérature. Je leur dis, oui, c'est intéressant. Là, vous tirez toutes sortes d'informations des textes. Mais comment s'est construit ce texte? Je les ramène à la littérature, un peu comme si j'avais mauvaise conscience de les laisser faire autre chose que ce que la discipline nous a programmé à faire. Et donc, c'est un peu comme la concession finale.
En fait, c'est une position qui est à la fois, je pense, enivrante, mais difficile, celle d'... Nous sommes, on a la chance d'être donc professeur, d'être spécialiste, formateur, et donc on a cette identité forte, mais on doit accepter d'être aussi constamment en formation. Et ce jeu entre les certitudes de l'expert et la fragilité de la personne en formation, c'est ce qui fait que notre collaboration est aussi riche, parce qu'on accepte d'être en formation sans fragilité, en quelque sorte. Mais c'est peut-être là la difficulté, mais aussi le bonheur d'une véritable interdisciplinarité. Celle d'accepter de ne pas tout maîtriser, d'accepter de baisser ses gardes et puis éventuellement d'apprendre à rejouer les cartes avec lesquelles on joue depuis 20, 25 ou 30 ans.
C'est très juste. Je pense que le mot qui m'est venu tout à l'heure en t'entendant parler de ce que la sympathie, l'amitié permettait, c'était le terme exploratoire. En fait, quand on est ensemble, parce qu'on a envie de voir aussi ce que l'autre fait et voit, on se départit d'une part de son attirail, parce que sinon c'est trop lourd, on ne peut pas traîner tout ça, pour aller explorer ce qui se passe ailleurs. Et je dirais que je retrouve là la liberté de mouvement dont je parlais plus tôt, c'est-à-dire que à cause de la confiance, à cause de l'intérêt, de la curiosité, du sentiment de sécurité que la sympathie permet, où on sent que on va pas être pris au défaut de la cuirasse, on peut y aller, à voix nue et sans la protection qu'on a acquise par la formation, par...
Mais c'est dire toute la force, et à laquelle, hein, je ne suis pas complètement contre, hein, mais faut dire, c'est dire toute la force de... de nos disciplines aux frontières très, 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 très hautes, qui fait en sorte que l'interdisciplinarité... C'est un peu ce que je comprends avec justement ce que tu évoques. L'interdisciplinarité dans un cadre moins sympathique, c'est aussi de risquer la légitimité de son travail dans sa discipline, au sein de ses collègues, au sein de son département, au sein des différentes sociétés savantes dans lesquelles on se trouve. Alors que cette question de la légitimité n'est pas jouée dans le laboratoire dans lequel on peut... toi, moi, quelques autres, se retrouver parce que cette question, justement, de légitimité n'est pas en jeu.
Elle se pose pas, ou en tout cas, elle se pose beaucoup moins. Tout dépend, évidemment, du degré de familiarité qu'on a avec l'autre. Et peut-être qu'à ce moment-là, on peut répondre à l'appel de l'objet sur lequel on travaille. Parce qu'au fond, nos objets, ils appellent des regards de toute nature. On aurait besoin d'avoir avec nous, pour bien comprendre Ménétra, par exemple, des historiens, bien sûr, des littéraires, mais aussi des anthropologues, des ethnologues. Il nous faudrait tout ça. Et des philosophes. Et puis c'est la même chose pour la question des temps reculés auxquels on s'intéresse actuellement. Ce sont des objets, et plus ils sont complexes, plus c'est vrai, qui au fond, pour être abordés de manière satisfaisante, demandent qu'il y ait ce croisement, cette pluralité des regards, cette polyphonie, pour reprendre l'image du dialogue, enfin, la métaphore du dialogue. Il s'agit donc de faire intervenir toutes sortes de voix. Mais encore faut-il que ces voix soient audibles les uns pour les uns et les autres.
C'est commun pour les historiens et les historiennes, comme j'imagine aussi chez les littéraires. On est tous conscients qu'un objet peut être aisément revisité 10 ans plus tard parce que les questions, les enjeux, les sensibilités ont changé et que forcément, on va interroger un événement, on va interroger un lieu, un temps avec les colères actuelles, les espoirs actuels. Or, ce que l'interdisciplinarité pourrait permettre est... L'interdisciplinarité, c'est aussi... c'est une évidence peut-être qu'on n'a pas souligné, mais c'est aussi le travail collectif, alors que nos disciplines, là aussi, nos formations nous engagent à un travail beaucoup plus solitaire et individuel, alors que l'interdisciplinarité, par définition, est un travail collectif. Mais justement, ce travail collectif, cette interdisciplinarité, permet peut-être de renouveler, sans attendre le changement de génération, de renouveler des interrogations sur un objet, sur un texte. Et donc, c'est comme si nous étions plus rapides quand on travaille davantage ensemble.
C'est sûr que l'archive, ce n'est pas le laboratoire. Hein. On y est assez seul. Oui, c'est une sorte d'accélérateur, en fait, hein, de la pensée, ou un catalyseur. Oui. Mais ces disciplines mêmes qui sont les nôtres et où on a l'habitude de travailler seul, est-ce qu'on n'y est pas venu grâce à des liens aussi? Je repense à qu'est-ce qui m'a mené à travailler comme 17e puis 18e. C'est la rencontre avec des personnes bien spécifiques. Et au fond, là aussi, c'est un peu paradoxal, mais il y a un rapport, au moins en tout cas dialectique, entre le lien et la liberté qu'il donne de construire quelque chose. C'est une série de renversements, au fond. La question du lien et du mouvement ou de la liberté. Parce que le lien libère, mais la liberté permet de créer des liens. Quand tu disais tout à l'heure qu'en se déplaçant dans son tour de France, Ménétra fondait de nouveaux liens, c'est un peu la toile sur laquelle il se déplace. Et au fond, on fait tous ça. C'est-à-dire que notre liberté nous permet de créer des liens qui, à leur tour, peuvent nous permettre de nous déplacer avec liberté.
Et comment, si je peux poser cette question, quels sont les liens qui t'ont conduit jusqu'à nous, si je veux dire, jusqu'à ta discipline?
En ce qui me concerne, moi, j'étais... D'abord, j'ai changé de discipline plusieurs fois, puisque au départ, je me dirigeais vers les sciences exactes, et puis les sciences de la santé, avant de passer en études chinoises, donc par une série de hasards. Et c'est la rencontre avec Bernard Beugnon, en fait, qui m'a fixé en littérature à mon retour d'une année passée aux langues orientales à Paris. Je suis retourné voir cet homme que j'avais rencontré 2 ans auparavant et qui m'avait beaucoup touché, frappé. Et c'est à travers ce lien-là que je me suis fixé, mais que je me suis défini aussi.
De mon côté, c'est un peu la, comment dire, c'est presque le cheminement inverse de notre propre collaboration, parce que je crois que c'est la littérature qui m'a conduit vers l'histoire. D'une part, j'étais convaincu que je voulais être historien dès le secondaire 2, donc c'était déjà plus ou moins inscrit dans mes passions, mais c'est Alexandre Dumas, c'est Stendhal, c'est la littérature que j'ai découverte un peu plus tardivement qui m'a conduit vers justement le 18e, 17e, 18e siècle, vers la France. Alors que souvent on me pose la question... pourquoi cet objet, d'une part, et puis aussi on me pose souvent des questions sur mes origines ou bien un intérêt que je pourrais avoir sur des ancêtres, alors que je n'ai franchement jamais été intéressé. C'est même
la généalogie. Non seulement
elle n'est pas mon truc, mais j'en ai même peur. Donc, ce qui fait que je suis très attaché à un cercle très restreint familial. Au-delà du grand-papa, rien ne m'intéresse. Mais mais ce qui fait que il y a donc une volonté d'être ailleurs, de découvrir d'autres gens ailleurs, et c'est la littérature qui m'a déjà, faussement évidemment, mais qui m'a presque donné une familiarité avec des amis ou des individus que je voulais connaître, et que donc avec les recherches et les archives, c'est ce qui m'a conduit avec ces nouveaux amis que sont les Français, les Parisiens, les Parisiennes du 18e siècle.
Alors que moi, parti aussi de la littérature, j'ai fini par évoluer de plus en plus vers l'histoire, au point que maintenant je me reconnais parfois qu'à moitié dans mon propre département. Et voilà, c'est jusqu'à ce que tu m'engages dans le tien.
Voilà, nous avons été, toi et moi, contaminés par la discipline de l'autre.
Voilà, c'est ça. Ben écoute, merci Pascal pour
merci
cette
à toi.
Conversation. Et on la continuera hors micro.
Assurément.